Ce soir, bruissement et chuchotement sont légion, alors qu'on attend l'une des plus grandes stars du moment. Depuis déjà de longues années, Tchaïkovski est un symbole de la puissance artistique russe à l'international. Le quinquagénaire, qui porte fièrement une barbe grisonnante, fait la une de la presse et des rumeurs à Saint-Pétersbourg ou ailleurs. Modeste est habitué au ragot, notamment lorsqu'il touche à la sexualité de son frère. Homosexuel, Piotr est marié à une femme, Antonina. Mais ceci n'est qu'une couverture qui vise à faire taire les rumeurs persistantes. La cérémonie d'union est restée dans toutes les mémoires comme un moment suspendu, terrible, où le musicien semblait vivre un enterrement et non son mariage. Le souverain des ballets est malheureux comme les pierres. Il a tenté de se suicider dans les eaux de la Moscova, broyé par la nécessité de dissimuler ses sentiments pour les hommes. Si dans la Russie tsariste, on découvre son homosexualité, alors sa notoriété va voler en éclats. Et cette carrière, c'est tout ce qu'il a. Édouard Napravnik est loin de tout ça. Il meurt d'impatience de découvrir cette symphonie alors que dans les cercles proches du compositeur, on en parle comme d'une œuvre géniale, presque révolutionnaire. Et puis, Piotr dirige lui-même la première, ce qui est loin d'être toujours le cas. C'est donc un insigne honneur d'être là pour vivre le moment qui vient. Le frère du musicien dissimule mal son angoisse. Cette œuvre que Piotr vient d'écrire, il ne peut pas dire si elle relève du génie ou de la folie. Jamais une telle symphonie n'a encore vu le jour. Tchaïkovski doit son succès à son lyrisme mélodique exacerbé, à ses orchestrations riches, colorées. Comment son public va-t-il réagir face à ce travail, Modeste ne pourra le dire. Depuis quelque temps, son frère semble de nouveau tourmenté. Par courrier, il a exprimé à plusieurs reprises son désarroi. Piotr a beaucoup pleuré au moment de composer son œuvre. Piotr se serait-il laissé déborder par sa sensibilité pour mieux se transcender? La foule réunie dans la magnifique salle ne va pas tarder à le savoir. Voilà que le compositeur fait son entrée. D'un signe de tête, il salue l'assistance. D'un premier coup de baguette, il entame le programme. Du Mozart, du Liszt, son concerto pour piano numéro 1. L'ambiance dans la salle est bonne, chaleureuse. Le musicien garde le meilleur pour la fin. Voilà que vient le clou du spectacle. Sa symphonie numéro 6 et son iconique premier mouvement. D'emblée, Édouard Napravnik et les autres comprennent qu'ils assistent à un moment unique et énigmatique. Atmosphérique, il emporte l'assistance avec un mélange d'angoisse et de spiritualité. Plus encore, c'est Allegro, traite de la mort. Alors qu'à plusieurs reprises, un drame s'exprime en creux. Un moment fort, c'est par exemple cette référence au Requiem orthodoxe russe, le chant traditionnel interprété sur le cercueil ouvert du défunt. Des frissons s'emparent de Modeste et Napravnik. Une ode aux morts, dans une symphonie. Quel message le compositeur cherche-t-il à faire passer? Son exécution, parfois imprécise, est empreinte d'émotion. Tchaïkovski semble submergé. Personne n'y perçoit alors un quelconque pressentiment. Et pourtant, à l'image du décor néoclassique qui commence à se fissurer derrière les dorures, la puissance de l'Empire russe est chancelante. Il y a depuis quelques années une atmosphère on ne peut plus particulière dans le pays. Le doute insidieux, terrible, s'installe. Et si les tsars avaient été maudits par Dieu, que ce dernier s'était détourné d'eux? Les derniers événements politiques, économiques et sociaux participent à entretenir ce sentiment de sinistrose. La mélancolie de Piotr Tchaïkovski ne lui appartient pas. Elle est globale, présente dans bien des milieux. Il est déjà loin le temps où Alexandre Ier a maté l'empereur Napoléon jusqu'à faire une entrée triomphale dans une ville de Paris occupée et mise à genoux. La puissance s'est délitée. De règne en règne, un sentiment particulier s'installe dans les cœurs et les esprits, celui de la nostalgie. Durant 45 minutes, enchaînant quatre mouvements, le génial compositeur, admiré de tous, propose à son auditoire quelque chose de différent. Le final, terrible, est très éloigné des codes et des coutumes. Un mouvement lent, où le désespoir s'immisce. C'est un adagio qui, à la surprise générale, vient conclure une pièce unique. Dans la salle, les réactions sont scrutées de près par le frère du musicien. Elles sont, on ne peut plus partager. Certains applaudissements sont mesurés, d'autres au contraire sont chargés par l'émotion. À vrai dire, Modeste et Napravnik, eux non plus, ne savent pas vraiment comment se placer face au travail extraordinaire mené par le musicien le plus célèbre de Russie. Faut bien le dire. Son exécution n'a pas été parfaite. Et cela laisse un goût de trop peu. Tchaïkovski, lui, paraît heureux du résultat. Il est même rongé par une très forte émotivité face à l'ouvrage. C'est parce qu'il se trame quelque chose. Son frère le sent. Étrangement, Modeste sent monter en lui un pressentiment bizarre. Ne dit-on pas que l'inimitable Mozart aurait écrit son propre requiem? Et si la fragilité de Piotr s'exprimait dans cette ode au désespoir, annonçant son propre trépas? Rien ne permet de le certifier. Tchaïkovski est au sommet de sa gloire, lui qui a inauguré le Carnegie Hall de New York il y a peu. Il semble en pleine forme, rit aux éclats, partage de bons moments avec ses amis et ses proches. Et pourtant, ce qui assaille son frère est imperceptible, irrationnel. Ce sentiment le colle à son fauteuil. Alors que sur scène, Tchaïkovski savoure un moment suspendu, la grande histoire reprend son cours, inlassable. Plus encore qu'une torpeur et un désespoir personnel, l'œuvre du compositeur rappelle à quel point le régime tsariste est une fleur en train de faner. La malédiction est en marche. Elle couve depuis longtemps. Elle va s'abattre sur Piotr Tchaïkovski. 9 jours après ce concert qui entre dans la légende, le compositeur est emporté par la faucheuse, aussi soudainement que bizarrement. A-t-il transmis avec cette symphonie numéro 6 son testament au monde? Peut-être bien. Mais le mauvais sort ne s'arrête pas à sa destinée personnelle. C'est tout un empire qui se fissure derrière la musique de sa figure de proue. Bientôt, les Romanov seront emportés dans les limbes de l'histoire. Moscou 1879. Le petit théâtre du Collège impérial de musique est un lieu iconique de la cité moscovite, où concerts et premières sont légion dans la Russie des tsars. Il n'est pas rare que des personnages officiels du régime s'y rendent, curieux de découvrir ce qu'il se fait de neuf au niveau culturel. Il y en a d'ailleurs des représentants dans leur tenue chic, leur simagrée ne passe pas inaperçu. Des militaires dans leurs uniformes d'apparat arborent médailles et dorures. Le faste d'un régime puissant s'exprime en plein, jusqu'aux salles de spectacle. Cette expression de joie et de détente est loin d'être partagé par tous les membres de l'assistance. Ce soir, il y a une femme qui est venue avec des pieds de plomb. Elle s'appelle Antonina. Depuis un peu moins de 2 ans, elle est la femme d'un certain Piotr Tchaïkovski. Leur mariage a fait la une de la presse, passionnant les foules. La notoriété nationale du compositeur n'est déjà plus à faire. Elle, son ancienne élève, lui avait écrit une lettre enflammée pour lui déclarer sa flamme. Antonina voulait l'épouser. Mais elle lui en avait pris. Elle a découvert l'envers du décor. Et plus encore, le désintérêt complet de Piotr pour les femmes. C'est bien simple. Il a même refusé de consommer l'union, repoussant Antonina dans des gestes proches de la répugnance. 48 heures après la cérémonie, le musicien a pris la poudre d'escampette, direction le Caucase. Chez sa sœur, il a tenté de reprendre le dessus, en vain. Lorsqu'il est revenu à Moscou le mois suivant, accueilli par sa femme sur le quai de la gare, une crise impossible à décrire s'est emparée de lui. Angoisse, maux de ventre, le rejet est viscéral, tant et si bien que depuis cet épisode terrible, Piotr Tchaïkovski a fait le choix de disparaître. Antonina a des nouvelles, de temps à autre. Le musicien compose, mais il est comme un fantôme. Ce soir, c'est un nouvel opéra né de sa plume, Eugène Onéguine, qui va être produit par les étudiants du Conservatoire de Moscou. Quelle ironie. L'œuvre porte sur un amour non partagé. Comment ne pas y capter un message ? Antonina sent se porter sur elle les regards et les murmures de l'assistance. La foule est subjuguée par ce nouveau travail du compositeur absent. C'est toute son âme que Tchaïkovski met au service de son art. Et dans une Russie en pleine mutation, marquée par les difficultés récentes, cela marque les esprits. Depuis la victoire finale contre Napoléon Ier, le pays est devenu une puissance qui compte sur le continent européen. Mais l'Empire est aussi gangréné par de nombreux problèmes qui n'ont eu de cesse de provoquer des heurts. Comment ne pas penser à la question polonaise, alors que l'insurrection de 1830-1831 a dû être matée dans le sang. Le tsar Nicolas Ier, à bien des égards autoritaire, n'a pas laissé que de bons souvenirs à la patrie. La guerre de Crimée, déclenchée au cœur de la décennie 1850, a provoqué un véritable séisme. Après une cuisante dérouillée sur l'Alma, Nicolas Ier a été humilié par l'alliance formée des Français, des Britanniques et des Ottomans. Le siège de Sébastopol, qui aura duré plus d'un an, se termine après la mort du tsar. Mais le mal est fait. Son successeur, son fils Alexandre II, se retrouve avec la patate chaude à gérer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son règne va être marqué par des épreuves qui vont durer et s'imposer jusqu'à la plus inénarrable des catastrophes. Lorsqu'il arrive sur le trône en 1855, à la mort de son père, Alexandre II doit assumer la cuisante défaite de son aîné en Crimée. Ce qu'on appelle le traité de Paris, ratifié au début de l'année 1856, est un camouflet terrible. Alors que militairement l'Empire cherche à développer son emprise autour des Balkans, la dérouillée subie marque un grand coup d'arrêt dans ses ambitions. Plus encore, l'accès au Danube, jusqu'alors chasse gardée des Russes, devient international. Les territoires qu'on nomme alors principautés danubiennes deviennent autonomes sous le patronage des puissances occidentales. L'Empire ottoman, ennemi intime des tsars, est conforté dans son indépendance et ses frontières sont sauvegardées. En somme, la défaite est très difficile à digérer. D'un point de vue national, le traité de Paris est une humiliation et le régime tsariste fait face à une fronde de plus en plus soutenue. Le nouveau souverain n'a guère le choix. Le temps des réformes est venu. Dans le cas contraire, les Romanov pourraient bien se retrouver rapidement sur la sellette. Celui qu'on ne tarde pas à surnommer le libérateur se montre particulièrement magnanime et efficace. Dans de nombreuses régions de l'Empire, des soulèvements paysans deviennent de plus en plus importants. Il faut dire que le statut des ruraux en Russie est digne du Moyen-Âge, alors que le servage est encore actif. En deux étapes, et contre les intérêts de la noblesse qui se dresse contre lui, le tsar s'emploie à jeter un pavé dans la mare. Dès 1858, les paysans des domaines de l'État obtiennent leur liberté personnelle. Autrement dit, le statut de serf est aboli. Pour la paysannerie qui dépend des seigneurs, il faut attendre 3 ans de plus avant d'obtenir le même statut. Parmi les classes aisées, le choc est immense face à cette nouvelle politique qui libéralise le travail et le mouvement de la main-d'œuvre rurale. tout n'est pas parfait. Notamment parce que les paysans ne deviennent pas propriétaires des terres qu'ils doivent partager de manière équitable avec les seigneurs. Mais tout de même, l'avancée sociale est notable. Mais Alexandre II n'est qu'à l'aube des profonds bouleversements. En 1864, dans les provinces et les districts, le tsar décide de lâcher du lest en créant des assemblées élues au suffrage indirect. Du budget local à la question de l'éducation, les Russes gagnent en autonomie. Cela est confirmé par l'instauration des doumas dans les villes dès 1870. Artistiquement, les conservatoires sont créés. Tchaïkovski devient le premier professeur de théorie du conservatoire de Moscou. Le régime se dirige-t-il vers une démocratisation ? Non, il n'en est rien. Mais pour la toute première fois, la population gagne en autonomie et en liberté. L'instruction primaire devient la responsabilité des assemblées, et non plus de l'Église. Les universités sont réformées et deviennent plus libres. La volonté du tsar est de se rapprocher dans le fond et dans la forme de ce qui peut se faire ailleurs en Europe. En 1864, une grande réforme de la justice va dans ce sens. Alexandre II est sur tous les fronts. Ces grands aménagements se décident globalement sur une décennie seulement. Réforme militaire, réindustrialisation, explosion du nombre des lignes ferroviaires, ouverture d'écoles privées pour les jeunes filles bien nées. Les efforts sont notables, mais incomplets. Le libérateur reste un tenant de l'autoritarisme. Lui qui raffermit la censure et doit assumer les conséquences de réformes qui vont dans le bon sens, mais qui ne sont guère complètes. Son début de règne, qui laisse croire qu'il va être l'homme modernisant le pays, est trompeur. Il devient de plus en plus conservateur. C'est notamment le cas lorsque des étudiants manifestent. Leur but ? Réformer l'Empire à l'occidental. Ils sont réprimés dans le sang. Même chose pour les Polonais, qui se révoltent de nouveau en 1863. La main ferme du tsar s'abat sur le pays. Les hommes politiques sont exécutés. Des milliers de locaux prennent le chemin de la déportation et de la Sibérie. D'un point de vue extérieur, le souverain est aussi servi, lui qui doit gérer une nouvelle crise orientale. Militairement, l'empereur tourne son regard vers l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, avec, il faut bien le dire, plus ou moins de réussite. Alexandre II doit faire face, à la fin de la décennie 1870, à une opposition révolutionnaire de plus en plus marquée et extrême. Au cours de son règne, il subit pas moins de 11 tentatives d'assassinat. Pas de quoi le décourager. Au début de la décennie 1880, il cherche à mener une nouvelle réforme politique. Le texte doit permettre de perfectionner les premières avancées sociétales. Mais l'empereur n'en aura pas le temps. Le 13 mars 1881, alors qu'il revient d'une parade militaire à Saint-Pétersbourg, une bombe explose au passage de son escorte. Indemne, il sort et fait face aux poseurs de bombes, remerciant le ciel de lui avoir laissé la vie sauve. Le révolutionnaire narquois lui rétorque qu'il est sans doute trop tôt pour se réjouir. Et a raison. Un nouvel engin explosif est lancé par un autre conjuré. Cette fois, il fait mouche. Déchiqueté, mutilé, le tsar est porté au palais pour y mourir. La meneuse de l'action, une certaine Sofia Perovskaya, une révolutionnaire en quête de vengeance alors que son compagnon a été arrêté quelques semaines plus tôt. Le moment est un véritable point de bascule. Il va marquer son époque. Cette fois, le virage pris par l'Empire risque bien de le conduire au fond des abîmes. Thank you.